Bienvenue sur Radio Grand Ciel avec Jolie Trouvaille, une émission proposée par Bernadette Loison et Anne-Sophie Chaubeau. Bonjour Bernadette.
Bonjour Anne-Sophie.
Alors aujourd'hui Bernadette, vous m'avez dit on va parler vaisselle, mais plus particulièrement on va parler assiettes.
Oui, parce que je pense qu'il y a énormément de collectionneurs d'assiettes, de façon plus ou moins importante, mais rares sont les maisons où il n'y a pas une assiette au mur. Donc c'est un mot qui vient du latin populaire, assedita, et ça décrivait au départ la façon d'être assis. Et d'ailleurs, on le dit toujours pour les cavaliers, avoir une bonne assiette. Ou alors, quand on n'est pas bien, on n'est pas dans son assiette. Mais puis, il y eut un glissement progressif, et le fait d'être assis, c'est la position du convive à table. Donc l'assiette est devenue le plat servi au cours du repas, puis à partir du XVIe siècle, la pièce de vaisselle plate elle-même.
Alors, les premières assiettes, justement, elles ont été faites en quelle matière, Bernadette ?
Alors, les premières assiettes ont été faites en faïence, puisque la faïence vient de la ville de Faenza, en Italie, et c'était au XVIe siècle. Alors, évidemment, au temps des Gaulois, ou plutôt, il y avait des assiettes en bois, après, il y a eu des assiettes en métaux, mais pour la faïence, c'est au XVIe siècle. Et c'était des décors historiato. Ça veut dire que c'est des assiettes qui racontent des histoires. Vous voyez, soit un épisode de la Bible, soit des mythologies, des récits mythologiques, qui sont donc et qui occupent toute l'assiette. Évidemment, maintenant, on ne se sert plus de ces assiettes à historiato, on les met au mur.
Oui, c'est de la décoration et des pièces qui ont énormément de valeur en plus, qui sont recherchées.
Et d'ailleurs, je voulais vous dire qu'à la collégiale Saint-André, parmi les artisans invités par l'association La Lyre d'Orphée, il y a deux faïenciers italiens, comme au temps de Della Robbia, qui sont invités donc pour cette exposition et qui continuent à travailler à Urbino, en plus vraiment dans le site, et de la même façon que pendant la Renaissance. Donc si vous voulez...
En suivant le même processus.
Exactement, oui. Bien sûr, peint à la main. Puis après, effectivement, il y a eu le XVIIIe siècle. Donc, la faïence, il lui est arrivé quelque chose d'un peu extraordinaire à l'histoire de la faïence, parce qu'en 1689, et plus tard, en 1699, Louis XIV ordonnait la fonte de tout ce qui était en or ou en argent pour financer ces guerres particulièrement ruineuses. Et Saint-Simon a écrit à ce moment-là, tout ce qu'il y eut de grand se mit à la faïence. Ils épuisèrent les boutiques, tandis que le médiocre continuait à se servir de son argenterie.
Donc ça a beaucoup de sens. Alors, est-ce qu'on a toujours eu la notion de service de table ou ça a évolué au fil des ans?
Non, ça c'est très très récent. Parce qu'en fait, quand on pense par exemple à Versailles et à la table de Louis XIV, ce n'étaient pas des assiettes du même service. C'était des jolies pièces, bien entendu, mais elles étaient toutes dépareillées. Et c'est aussi quelque chose qui se perd, ça, la notion de service complet, qui était tellement à la mode au XIXe siècle. Tous les mariés recevaient un service de vaisselle. Alors que maintenant, de plus en plus,
On aime le dépareillé, au contraire.
Voilà, on marie les différentes manufactures de manière à avoir une table peut-être plus originale ou qui frappe plus l'esprit.
Alors, est-ce qu'il y a une date particulière pour le début de la commercialisation de la faïence et la porcelaine? C'est à partir du 19e siècle, en fait, plutôt?
18e, je dirais, pour la porcelaine. C'est-à-dire que tant que... Enfin, non, évidemment, ça se faisait en Chine. La porcelaine se faisait en Chine depuis très très longtemps, parce qu'en Chine, ils avaient du kaolin, mais nous, on n'en avait pas. Donc, c'est seulement quand, en 1609... Boedger a découvert du kaolin près de Mécène qu'il s'est mis à faire de la porcelaine. Et d'ailleurs, la toute première cuisson qu'il a faite en présence d'Auguste Lefort, qui suivait ça de très près, c'était une petite théière. Et puis après, il y eut bien sûr un certain nombre d'assiettes.
Alors effectivement, il y a des grands noms qui apparaissent à cette date-là par rapport à la faïence. Et puis, on trouve en France, donc, plusieurs productions, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr. Toutes les manufactures font des assiettes et il y en a qui sont particulièrement célèbres. Comme par exemple, le peintre Braquemont a fait un service de vaisselle avec toutes sortes d'animaux. Et là, bien sûr, on ne trouve que très rarement le service complet, mais très régulièrement sur les brocantes de Chartres notamment, on peut trouver une assiette de Braquemont.
Alors, il y a Moustier aussi.
Moustier, oui. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces manufactures se sont, pendant de très longs siècles, le 18e et le 19e, se sont copiées les unes les autres. D'abord parce qu'il y avait les peintres ou les employés qui changeaient de manufacture, qui trahissaient un petit peu les secrets de l'autre. Et donc, tout le monde a copié tout le monde. Oui, ce que je voulais dire pour Moustier, c'est que, à la grande époque de cette manufacture, on ne fabriquait pas encore d'assiettes. Et petit à petit, ils se sont mis, bien sûr, à en faire. Et maintenant, quand on va à Moustier, il y a toujours des artisans qui continuent à les faire dans les règles de l'art. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des copies. C'est du Moustier.
Oui, c'est du Moustier, mais du Moustier fait à notre époque contemporaine.
Contemporaine, voilà, c'est ça.
Très bien. Et est-ce que vous voulez bien nous parler du Sèvres et de Limoges, Bernadette, alors ?
Alors, Sèvres a été la première manufacture française à faire des assiettes en porcelaine quand on a eu trouvé le kaolin à Saint-Ypriex. Et puis, tout de suite après, Limoges s'y est mis et il y a eu énormément de manufactures à Limoges. Sèvres est resté quelqu'un qui ne faisait que des très, très belles choses. Et ils ont fait, évidemment, de très belles assiettes. Mais ce sont des cadeaux pour les ambassades, très très souvent. Et vous avez beaucoup de royauté, justement du côté de l'autre côté de la Méditerranée, qui achètent encore des services à Sèvres. Mais là, c'est vraiment de très très belles choses.
Des pièces rares, très
luxueuses. Des pièces rares, oui. Alors que pour Limoges, bon, c'est déjà plus abordable. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a encore une période où on entendait à la radio cette publicité « Bernardeau, porcelaine de Limoges ». Et puis maintenant, il y a Havilland qui fait toujours de très très jolies choses.
Tout à fait. Des manufactures bien connues. Alors, évidemment, donc, les formes de l'assiette, on peut dire
une assiette, c'est rond.
C'est rond, voilà.
Ouais, c'est rond, sauf si certaines manufactures font maintenant des assiettes carrées, comme à Durtal. C'est un petit peu la mode, mais ouais, c'est vrai que normalement, l'assiette, elle est ronde et c'est soit un cercle parfait, soit une assiette chantournée, c'est-à-dire que tout autour, on a comme des petites vagues. Ce n'est pas un rond parfait.
Et alors, l'assiette anglaise, elle est un petit peu différente.
Elle est un petit peu plus grande.
Voilà, elle est un peu plus grande.
Voilà, une assiette de nos services, ça fait environ 25 cm. Mais il faut bien compter 27 quand on parle d'assiette anglaise. Et puis, il y a les toutes petites assiettes à dessert. Ouais. Alors là, il y a eu des choses très importantes de fait de cette taille-là, avec des séries notamment, des séries d'histoire. Alors là, on a sur l'aile, par exemple sur celle-ci qui est de Creil-Montrault, sur l'aile, on a des petites sculptures en relief. Et puis, à l'intérieur, une décalcomanie. Parce que j'ai oublié de le dire, mais il y a trois façons de décorer les assiettes. Ou bien elles sont peintes à la main. Et on n'a pas l'image, je peux pas vous la montrer, mais on en a une ici qui vient des pays de l'Est et qui visiblement montre des roses parce que les fleurs et la rose, c'est ce qui sert le plus.
C'est le décor floral le plus,
le plus important. Et donc là, on a des roses qui sont peintes à la main. Et puis au dos, on a ce qu'on appelle les pernettes. C'est-à-dire que comme ces assiettes étaient posées sur des cassettes pour aller au four, j'allais bien les poser quand même un petit peu. Alors, on voit les trois pernettes
les
au
marques,
dos.
Oui.
Voilà. Et ça, ça nous dit que c'est une assiette ancienne.
Très bien. Et alors, en ce qui concerne les décors, donc on a dit qu'ils sont parfois peints à la main, où il y a des transferts.
C'est oui, ça c'est ça. À partir du moment où il y a des transferts, ça a été un peu le début de la mécanisation.
Tout à fait. C'est un peu plus industriel. Oui. Alors maintenant, Bernadette, on va voir ensemble les différents thèmes qui sont abordés. Alors, on a vu effectivement beaucoup de fleurs, des décors végétaux, n'est-ce pas ?
Oui.
Et puis après, on voit aussi apparaître souvent les animaux.
Oui, il y a des animaux et notamment des oiseaux. Par exemple, le paon est un oiseau qu'on retrouve assez facilement sur des assiettes. mais aussi toutes sortes d'oiseaux.
Parfois, on a aussi des scènes de chasse. Hein,
oui. Alors là, ce sont des petites assiettes qui sont souvent faites sous forme de série. Il y en a 6, et 6 avec des petits transferts différents. Oui. Ça raconte une histoire.
Ça raconte une histoire, voilà. Alors effectivement, vous m'aviez dit, il y a chez Creil Montreux, Les Oiseaux, chez Keller et Guérin à Lunéville.
Oui, voilà.
Et il y a également quelque chose qui est un petit peu particulier, ce sont les petites assiettes avec les personnages. Alors là aussi, parfois, ça raconte une histoire parce qu'on a des scénettes différentes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces petits personnages?
Alors, pour les personnages, qu'il s'agisse de merveilleuses faïences italiennes, comme celles dont je parlais tout à l'heure, ou des assiettes françaises ou même hollandaises, l'homme s'est représenté lui-même sur ces assiettes. Et parmi les personnages, il y en a un qui est la vedette. C'est le chinois, parce qu'à l'origine, les pièces étaient rapportées par les compagnies des Indes, et donc ce thème a été décliné dans toutes les manufactures européennes, et comme on se copiait les uns les autres, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était peint par des artistes qui n'avaient jamais rencontré un vrai chinois.
Alors effectivement, le thème, l'exotisme, l'orientalisme est très, très représenté en fait.
Oui, 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 parce qu'on copie ce qu'on a reçu de Chine. Mais par contre, quelquefois, on envoie en Chine des commandes qui passent par la Compagnie des Indes et qui sont réalisées avec des copies de gravures. Et dans ce cas-là, on reçoit une assiette au retour. Effectivement, la dame est habillée en marquise, mais comme les Chinois, eux, n'ont jamais vu d'orientaux ou presque, elles ont toutes les yeux bridés.
D'accord. Bien. Je vous remercie beaucoup, Bernadette, pour ce spécial assiette. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission pour Jolies Trouvailles.
Merci Anne-Sophie.
Au revoir. Merci à Simon qui a assuré toute la partie technique.
Ah, que ces convives sont impolis. Je bois ma honte jusqu'à la lie. Pourtant, je ne riposte pas.
Que ces convives sont détestables. Et l'autre conne au bout de la table avance son couteau vers moi.
Pourquoi tout le monde se sert dans mon assiette? Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde se sert dans mon assiette.
Ces invités, sans en avoir l'air, m'auront piqué jusqu'à mes couverts et pillé chacun de mes plats.
En bavardant, ils font comme de rien, à coups de fourchette, pire que les chiens. Je n'en peux plus de ce repas.
Pourquoi tout le monde se sert dans l'assiette? Tout le monde se sert dans l'assiette. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde se sert dans l'assiette.
Comment défend-on sa vie dans ce face à l'appétit ennemi?
Comment défend-on sa vie dans ce face à l'ennemi?
Pour mettre un terme à cette infamie, j'ai parfumé gâteau de riz, un peu de poudre d'apparat.
Armés d'une ultime petite cuillère, ils avaleront leur dernier dessert et je crierai adieu les rats.
Pourquoi tout le monde se sert dans mon assiette? Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde se sert dans mon assiette. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde se sert, tout le monde se sert. Tout le monde se sert, tout le monde se sert. Tout le monde se sert, tout le monde se sert. Tout le monde se sert dans mon assiette.
Radio Grand Ciel vit essentiellement grâce aux dons de ses auditeurs. Occasionnels ou réguliers, ce sont ces dons qui vous permettent, nous l'espérons, d'apprécier ces programmes de proximité. Si vous croyez en l'utilité de votre radio chrétienne, soutenez-la. Votre générosité lui permettra de continuer à exister. Envoyez vos chèques à Radio Grand Ciel, 15 rue Mérigot, 28100 Dreux. Merci. Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.